Une visite à Arras sous l'angle mystérieux des choses cachées. Pour découvrir l'histoire du patrimoine arrageois sous un angle inhabituel et complété par des notions d'ésotérisme. C'est une balade que vous propose Bertrand Bozio, un passionné et spécialiste de l'ésotérisme autour des légendes de la ville et autres anecdotes, comme la fée Mélusine, un mégalithe, le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle ou encore la Vaudrie d'Arras.
J'étais ouvrier pendant longtemps. Aujourd'hui, j'ai changé de voie pour faire vraiment essayer d'être en adéquation avec ce que j'aime vraiment, qui est les sciences occultes, le paranormal, l'ésotérisme, tout ce monde fascinant qui réside dans l'invisible en fait et qui est hérité de sciences très anciennes. Alors aujourd'hui, concrètement, ce que je fais des découvertes mystère et ésotérisme, donc comme aujourd'hui à Arras, où j'essaie de mettre en relation l'endroit géographique, le lieu historique, la légende, et puis après on va un petit peu plus vers les sciences occultes. C'est aussi une histoire de démocratiser ce domaine qui est mal connu.
Mais alors toi, comment tu t'es dirigé justement vers toutes ces sciences occultes? Tu t'es passionné pour ça? Tu as lu des choses qui t'ont donné envie d'en apprendre plus?
Alors déjà, je peux dire que je suis comme Obélix, je suis tombé dedans étant petit, j'ai toujours été fasciné par... J'ai toujours été en décalage, si tu veux, dans ce monde. Le monde matériel, celui qu'on vit dans notre quotidien, il n'est pas fascinant pour moi. Il manque de rêve, d'imaginaire. Donc tout petit, j'ai déjà été attiré... focalisé sur le monde invisible, l'imaginaire. Après, en vieillissant, j'ai vraiment eu envie que ça prenne plus de corps, plus de réalité dans ma vie. Je voulais pas que l'imaginaire ce soit juste lire un livre ou juste regarder un film. Je voulais que l'imaginaire ce soit vraiment dans mon quotidien et dans ma réalité à moi. Et du coup, les sciences occultes, c'est ce qui permet vraiment d'être lié au monde réel, au monde de la géométrie quand on parle de géométrie sacrée. On va aussi un petit peu étudier avec la quantique pour voir un petit peu les effets des molécules, tout ça, l'énergie, comment ça se comporte. Et puis le monde imaginaire ou vraiment de la magie. En sciences occultes, on parle de magie opérative, c'est-à-dire vraiment la magie comme on voit à la télé avec le cercle et la baguette magique, quoi, c'est ça. C'est vraiment pour être dedans à 100% dans ma vie de tous les jours, en fait.
Est-ce que c'est pour ça aussi que tu as eu envie peut-être de partager un petit peu ton expérience et puis de faire des visites dans des lieux comme Arras?
Ah, tout à fait. Déjà, ma passion pour moi ne se conçoit pas sans partage. J'ai envie que les gens profitent de ce bon truc qu'est l'ésotérisme. En fait, ça apporte énormément de choses, en fait. Et puis aussi, pour, on va dire, un petit peu pour enlever un peu l'image très, très négative qu'ont les sciences occultes en particulier, où vraiment le mot occultisme est lié vraiment à un univers très, très noir, très glauque, très sorcellerie, alors que c'est absolument pas ça du tout. C'est vraiment beaucoup de mathématiques, c'est l'astronomie, astrologie. C'est pas du tout comme l'image qu'on en a. Et c'est aussi pour ça que je fais ça, pour un peu enlever cette image négative, un peu démocratiser aussi, hein, pour que les gens puissent vraiment avoir... savoir vraiment ce que c'est en dehors de l'image qu'on a dans les films à la télé qui représentent mal les sciences occultes, en fait.
Alors justement, tu penses que cette image un petit peu négative des gens envers l'occultisme, c'est donné par ces films qu'on voit à la télé? C'est aussi le fait, parce que étymologiquement ça veut dire que c'est caché, c'est l'absence de preuves, c'est quoi?
Alors oui, je pense que vraiment pour l'histoire du côté très très noir, c'est vraiment le cinéma à 98% en fait, je pense. Parce que le cinéma associé tout ce qui est planche Ouija à des films d'horreur, tout ce qu'on voit en matière de sorcellerie, c'est-à-dire en matière de représentation symbolique, hein, avec le pentacle inversé, tout ça, ça ressortit. Donc voilà, je pense que le cinéma a fait beaucoup de tort. Et je ne pense pas que le mot caché soit très dérangeant, parce que les gens ne connaissent pas la nature étymologique du mot occulte. L'ésotérisme qui a la même racine mais en grec, est entouré d'une bonne aura bien scintillante, bien brillante, avec des beaux chakras, tout ça. L'occultisme, c'est plus problématique.
Pendant la visite, on s'est arrêté auprès du beffroi et auprès de l'église, et tu as beaucoup parlé de religion. Est-ce que tout ce dont tu parles, ça peut aussi s'appliquer à d'autres religions? Parce que là, du coup, on a parlé de la religion catholique, mais est-ce que ça peut aussi s'appliquer au judaïsme ou à l'islam, par exemple?
Ah oui, absolument, tout à fait. Alors, j'essaie toujours bien de faire la différence, mais si tu regardes, si tu prends un carnet et que tu coches le nombre de fois que je vais parler de ces endroits, je vais utiliser beaucoup le mot sacré. Alors, le mot sacré, pour moi, est complètement différent de la religion. La religion, c'est plutôt une histoire de vocabulaire et de culture. Mais ça s'applique à tous les lieux, parce que le sacré obéit à des paramètres qui sont des paramètres de géobiologie, de géographie, en fait, hein. Donc, comme j'expliquais tout à l'heure, des implantations, notamment des orientations spécifiques, des énergies du sol. Donc, en fait, ça concerne tout ce qui est lieu sacré depuis la plus haute antiquité, et il n'y a vraiment pas d'étiquette particulière à mettre dessus. La religion, c'est vraiment un truc culturel que j'essaie d'expliquer aux gens, justement, qu'il faut faut un petit peu enlever le vernis de la religion pour essayer de bien comprendre, aller au cœur du sujet en fait. Et la religion, malheureusement, ça empêche les gens d'appréhender vraiment la nature réelle des lieux sacrés en fait. Ce sont des lieux de guérison, comme j'expliquais tout à l'heure.
Tu nous as aussi parlé de grandes figures comme Pythagore, par exemple. Est-ce que ça permet justement de donner une vision plus claire aux gens de parler d'eux ?
Ah oui, tout à fait, oui. Alors, je me sers, alors, c'est pas que vraiment que j'instrumentalise Pythagore, mais c'est bien de donner des références que les gens connaissent, en fait, hein, pour dire hein, quand même que, bon, il y a des grands occultistes. Bon, les occultistes, on y passe un peu pour des fous, hein, je dirais, pour des gens bizarres. Le fait de citer Pythagore, Platon, les néo-platoniciens, etc., bah, ça permet quand même de redonner un peu de crédit, si tu veux, aux sciences occultes. Hein. Ça évite un peu de passer pour des farfelus. On va dire que ça calme un peu quand on dit que Pythagore, qu'on étudie à l'école, c'est un pilier de l'occultisme.
Est-ce qu'il y a déjà eu des gens pendant tes visites qui sont rentrés en opposition vraiment frontale avec ce que tu dis ?
Honnêtement, non. Bah, les gens qui viennent à mes visites sont déjà un petit peu intéressés par le sujet en général. Non, frontalement, non. Après, j'ai rien contre les opinions opposées. Pendant que je fais mon circuit, il est assez long, comme vous avez pu le constater. Donc, c'est pas vraiment l'esprit d'interagir avec les gens, si tu veux. Mais non, ça m'est jamais arrivé. Alors, il y a des gens qui posent des questions qui sont un peu comme des petits tacles, hein, ça arrive. Mais il n'y a jamais personne qui m'a vraiment dit frontalement ce que tu dis, c'est n'importe quoi, quoi. Ça pourrait arriver, hein, mais non. Après, les gens, ils viennent et c'est parce que ça les intéresse. Donc, le monsieur l'ermite qui avait certainement rien fait, hein, de chance, sous la torture, il a désigné plein de personnes en fait. Donc ça a commencé à atteindre la bourgeoisie, c'est assez inhabituel, hein. Très souvent ça reste dans le petit peuple, là ça a commencé à atteindre les bourgeois, et ça a même été jusqu'à atteindre un duc de Bourgogne, alors qu'à l'époque Arras était bourguignon, donc c'était à cette époque-là. Donc c'est un duc de Bourgogne qui a quand même été trempé dedans. Alors il y avait l'inquisiteur de l'époque. Alors les inquisiteurs c'était très aînés, hein. Et disait que d'après lui 30% de la population d'Arras devait monter sur le bûcher. Bah, vous imaginez, vous avez un inquisiteur qui vient là, alors, et on sait que le gars est dans la ville là et qui cherche la sorcellerie, que l'autre, si on lui brûle les pieds, il va peut-être vous balancer. Voilà, il y a le procès à Valenciennes où il y a une dame Marie Couvin qui a accusé sa fille sous la torture. Attention, il faut voir ce que c'est, je vais vous lire un petit extrait d'un monsieur qui s'était torturé, vous allez voir. Que les gars ils pouvaient endurer. Alors là on comprend tout de suite pourquoi ils avouaient. Donc en fait la vaudrie d'Arras ça s'est arrêté en 1461. Il y a eu 29 inculpés, 10 brûlés vifs et les autres ont été absous, on va dire.
Pendant la visite, on a aussi parlé avec toi de magie noire, de magie blanche, de pendules, d'énergie, de sorcellerie aussi. Moi, je voulais savoir, qu'est-ce que t'en penses quand, par exemple, on peut acheter une planche de Ouija dans le commerce, comme ça
Une planche de Ouija, c'est un outil qui est quand même, alors ça va peut-être paraître bizarre ce que je vais dire, mais quand même dangereux à utiliser, il faut être prudent. Ça reste un outil, c'est-à-dire que si on démarre pas un outil qui est dangereux, par exemple une disqueuse ou une tronçonneuse, bah, ça fera rien. Donc une planche Ouija, tant qu'on s'en sert pas, elle peut rester dans le salon ou on peut la mettre sous son lit, il se passera rien. Une planche Ouija n'est qu'un outil. Par contre, se servir de cet outil-là de façon à considérer ou pour s'amuser, voilà, il y a des choses à savoir. C'est un outil qui reste quand même dangereux. On va ouvrir quelque chose qui reste encore du domaine de l'invisible. C'est ce qui caractérise le milieu occulte. Donc on travaille sur des choses qu'on peut difficilement non seulement prouver, mais même appréhender. On ne sait pas ce qui va se passer quand on entre en contact avec un défunt, on ne sait pas vraiment qui il est, ça pourrait être pas celui qu'on croit. Donc c'est à ce niveau-là qu'il faut quand même être très prudent. La démocratisation des planches Ouija, moi ce qui me gêne un petit peu là-dedans, c'est le côté un peu jeu, un peu jouer. Le problème c'est que dans ce monde-là, on n'est pas là pour jouer, il y a des choses qui sont quand même très effrayantes. Hein. Bon, je le sais, parce que voilà, comme je t'expliquais, j'interviens dans des maisons. On voit bien que les gens, ils n'en viennent pas large. Hein. J'ai vu des gaillards d'un mètre 80, hyper cartésiens, qui étaient comme des gosses, hein, limite les larmes aux yeux, tellement ils ont vu des choses terribles. Donc, c'est pas de l'amusement. Il faut être prudent, il faut faire les choses bien. Il y a des choses à savoir, hein, qui permettent d'utiliser la planche Ouija avec plus ou moins de réussite, on va dire, sans contrepartie derrière, en évitant les risques. mais ça reste quelque chose qui, pour moi, n'est pas, doit pas être utilisé par les profanes, pas de façon à considérer en tout cas.
Arras, c'est aussi une ville qui regorge de symbolique et d'histoire. Tu nous as parlé de la Vauderie d'Arras, tu nous as parlé aussi de Mélusine. Est-ce qu'il y a d'autres villes, est-ce qu'il y a d'autres endroits justement où tu fais ce genre de circuit?
Alors je fais aussi des circuits comme ça à Valenciennes, à Lille aussi, parce qu'à Lille, sur un petit parcours, il y a des choses très intéressantes sur Lille, notamment comment le couvent des possédés des Brigitines, et puis la maison de la momie, il y a des lieux hantés, tout ça, donc c'est vraiment pas mal. Je vais le faire à Cambrai aussi, puis à Amiens. J'essaie de le faire un petit peu dans les grandes villes, parce qu'il y a des choses à dire dans toutes les grandes villes, hein, forcément. Et puis c'est toujours un petit peu avec l'esprit aussi de démocratiser, hein, d'essayer, je fais un peu mon pèlerin, si tu veux, hein. J'essaie de dire aux gens, voilà, ça c'est intéressant, regardez dans votre vie tous les jours, comme on a vu la géométrie sacrée tout à l'heure dans notre quotidien, tu sais que les proportions, voilà. On peut s'émerveiller du quotidien.
Tu as aussi une page Facebook, je crois, qui s'appelle Nord Fantastique, c'est ça, sur laquelle tu parles un petit peu des légendes du coin, tu invites les gens à découvrir des sites.
Oui, tout à fait, c'est vraiment tout à fait ça. En fait, si tu veux, j'essaie de mettre en avant le patrimoine mystérieux, insolide, fantastique de la région. C'est un patrimoine qui est en sommeil, c'est-à-dire qu'en fait, les gens ne sont pas très au courant qu'il y a des menhirs, qu'il y a des lieux sacrés, des lieux guérisseurs, qu'il y a des lieux hantés, tout ça. Donc, j'essaie pareil, toujours de partager, de démocratiser, de vulgariser un petit peu ces connaissances pour que les gens aient pu s'émerveiller leur quotidien et arrêter de se dire, maison hantée, il faut aller faire 500 km pour voir un menhir, il faut aller en Bretagne. Non, non. On a des menhirs, tout près d'Arras. Il y a des menhirs, il y a des dolmens, voilà, on a des beaux trucs. Il ne nous reste pas grand-chose, c'est vrai, il faut reconnaître. À côté de la Bretagne, en matière menhir, on ne peut pas rivaliser. Mais c'est un patrimoine d'autant plus précieux qu'il est devenu très très rare. Donc je pense qu'il faut s'y intéresser. Et ce qui nous permet aussi d'entretenir la connexion avec notre passé collectif. Pas notre passé individuel, mais notre passé collectif. Et puis s'intéresser à l'histoire, un petit peu les peuplements. Quand on va sur les menhirs, on est au premier peuplement, donc on va vers le néolithique. C'est vraiment, on fait une espèce de descente verticale temporelle vers ce qu'étaient nos ancêtres. Ils ont vécu là, etc. Enfin, y a aussi le côté historique qui est sympa, et qui est autour, hein, autour de tout ce truc occulte et tout. Il y a de l'histoire. Hein. On étudie Platon, on étudie Pythagore, on s'enseigne sur les Égyptiens, tout ça. Donc il y a tout ça en plus qui est sympa. Y a le côté culturel qui est bien aussi. Et il y en a partout dans toutes les villes. Donc oui, je vais essayer de montrer un petit peu tout ça aux gens pour qu'ils s'émerveillent un petit peu en ce moment. Je pense qu'on a besoin.
Est-ce que tu as 2-3 lieux de visite à nous donner autour d'Arras?
Ah oui, bien sûr. Il y a les pierres jumelles à Écouavre. Mm-hmm. Donc ça, c'est 2 menhirs absolument magnifiques. Il y a le Mont Saint-Éloi tout près. Il y a la fontaine guérisseuse de Merville. Il y a les magnifiques ruines de l'abbaye de Saint-Ablain. Enfin oui, il y a pas mal de trucs. Hein. Il y a la fontaine à Souchet aussi. Enfin, il y a beaucoup de trucs ici dans la région.
Est-ce que tu aurais éventuellement une petite anecdote à nous raconter avant de presque finir cette interview?
Ah, une petite anecdote, ça dépend sur quel sujet.
Une anecdote que toi tu aurais vécue ou une intervention que tu aurais fait par exemple, ou même en visite en particulier.
Ah oui, alors une petite anecdote, oui, quand on parlait de synchronicité. Bah, une fois cet été j'étais à Arras, je faisais un marché nocturne, et puis je m'étais intéressé à la maison la maison hantée de Lambersart, en fait, une maison qui était réputée très hantée de Lambersart, et puis justement je parlais avec les gens de l'histoire de fantômes, parce que je donne aussi des conférences sur les fantômes. Puis je voyais une vieille dame à côté de moi qui écoutait, puis qui regardait, elle hochait la tête, et puis elle disait aux gens, oui c'est vrai ce qu'il dit. Et puis quand les gens sont partis, elle m'a dit, ouais, vous savez, vous connaissez la maison hantée de Lambersart? Je fais, oui, je connais, j'ai entendu parler. Elle fait, j'ai habité dedans. Et puis elle m'a raconté, et puis elle m'a dit, ouais, c'était vraiment hanté, elle a vu des trucs et tout. Et puis elle était là, je vous jure monsieur, je vous jure que c'est vrai. On voyait vraiment qu'elle avait peur que je crois pas, de passer pour une folle. Mais tu vois, le truc que j'avais fait un petit post sur ma page, quoi, quelques semaines avant, et puis vraiment sur un marché, je rencontre, en plus c'était à Ville, donc c'est quand même pas dans le coin, je rencontre la personne qui habitait dedans. Donc tu vois, c'est des synchronicités, parfois il se passe des choses un petit peu étranges.
Est-ce que tu as un conseil lecture éventuellement pour des gens qui voudraient, ou lecture ou vidéo ou quelque chose comme ça, pour des gens qui voudraient se renseigner un petit peu plus
Alors je conseillerais aux gens, alors moi j'ai des livres à conseiller, mais ils sont difficiles d'accès quand même, donc pour vraiment ceux qui veulent commencer à avoir des connaissances, mieux vaut qu'ils aillent voir sur YouTube des vidéos, commencer par regarder des vidéos pour voir vraiment quel domaine va les intéresser le plus, parce que c'est quand même très vaste, hein. Il y a l'astrologie, la numérologie, il y a le tarot, il y a ce qu'on appelle vraiment les sciences occultes, il y a les énergies, enfin ouais, il y a vraiment plein de trucs qui peuvent être fascinants, et du coup parfois on se perd un petit peu, donc je conseille avant d'investir dans des livres énormes, et puis on va arrêter au bout de 10 pages, d'abord de chercher sur des vidéos, tout ça, il y a des vidéos qui sont très bien de vulgarisation. Tout à l'heure, tu parlais de Occulture, par exemple, pour regarder des chaînes comme ça. Et puis, une fois qu'on a trouvé vraiment ce qui nous fascine, ben là, on peut partir sur des livres. Moi, les livres que je lis, c'est des livres très pointus. Je passe pas par les ABC du ci ou du là, si tu veux. Donc, je ne peux pas conseiller, recommander à des gens qui ne sont pas habitués des livres aussi compliqués. Mais sinon, on va dire, je citerai Papus et Piob, qui sont excellents, mais vraiment magnifiques, mais très, très compliqués à lire. Il faut vraiment être un passionné. Après, non, je pense que commencer par des vidéos, quand on commence, c'est plus raisonnable, je pense.
Alors, on peut te retrouver sur ta page Facebook, Nord Fantastique. Est-ce qu'il y a d'autres endroits où on peut te retrouver? Et aussi, je crois que tu fais d'autres dates, d'autres visites à Arras. Quand est-ce que c'est?
Alors, vous pouvez me retrouver sur ma page Nord Fantastique, en effet, où c'est la vulgarisation du patrimoine fantastique de la région. J'ai une page qui s'appelle L'Ésotérium, qui est plus consacrée, alors qui est liée à ma boutique et à mes circuits, mais qui est plus consacrée vraiment à l'ésotérisme plus pointu. Bon, je vais pas parler forcément de la région, mais vraiment d'ésotérisme. Après, les autres dates à Arras, je vais venir encore deux fois. Donc, une fois le 1er février, une fois le 1er mars. Et Lille, c'est une fois toutes les deux semaines. Voilà, ça, c'est jusqu'en avril. Et vous pouvez retrouver toutes les dates sur mon site, sur ma page Ésotérium.
Nous avons également recueilli les impressions de quelques participants à l'issue de la visite.
Des parties qui m'ont intéressée plus que d'autres. J'étais venue parce que j'étais intéressée par les lieux énergétiques particuliers dans la ville. Il y a d'autres aspects sur la sorcellerie, des choses comme ça qui m'intéressaient moins, mais j'ai appris des choses sur la ville et je trouve que c'est intéressant.
Donc du coup, ça vous encourage à aller découvrir d'autres lieux dans le coin aussi?
Bah oui, ça me fait poser des questions sur ce qu'on peut découvrir dans la ville et puis peut-être essayer de la regarder autrement.
Donc vous avez fait une formation ou quelque chose, c'est ça?
Non, beaucoup de lectures.
Lecture, ok.
Ensuite, par le bouche à oreille, des personnes qui interviennent dans ma vie sans que je cherche, en fait.
D'accord.
Et donc, je me doute qu'il y a quelque chose là-dessous, en fait.
Donc c'était plus cet aspect avec le symbolisme, avec le pendule, les énergies, tout ce qu'il nous a montré, plutôt que le côté historique d'Arras
voilà,
qui vous a intéressé.
C'est ça. J'ai plutôt été attirée par ça, oui.
Ouais.
Et franchement, il a répondu à mes attentes.
Et du coup, ça vous encourage à aller potentiellement visiter d'autres lieux ou aller voir par vous-même ou sentir les énergies?
Oui, les pierres jumelles à Hac.
Ouais.
J'y suis déjà allée une fois. Mais sans vraiment savoir que le site était encore actif. Donc là, j'y retournerai vraiment en le sachant.
Mm-hmm.
Donc je pense que ce ne sera pas la même approche. Ensuite, la pierre des fées à Verdrel, à Frénicourt-le-Dolmen, pareil, j'y retournerai, mais pas avec la même attention, en fait. Oui, si, il y a des choses qui vont changer.
C'était un entretien avec Bertrand Bozziaud, un passionné et spécialiste de l'ésotérisme, à propos de la visite qu'il organise autour des légendes et du patrimoine ésotérique d'Arras. Une interview illustrée par un extrait de la visite est réalisée avec la complicité d'Alix, stagiaire à Radio PFM.